G.
Comme D.
Goûte mes disques.
Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Game Changer, le podcast du média et webzine Goûte mes disques. Le principe, il est simple comme une bonne pop song. On invite des gens dont on apprécie le travail, dont on apprécie la vision, pour qu'ils nous parlent de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font, en prenant pour point de départ un album qui a joué un rôle important dans leur vie. C'est le fameux Game Changer qui donne son nom à ce programme. Alors aujourd'hui, je suis flanqué de l'inénarrable, de l'ineffable Nico. Salut Nico.
Hello.
Comment ça va?
Bien et toi?
Moi, ça va. Je vais d'autant mieux que pour ce numéro, on a vraiment l'immense plaisir d'enfin accueillir Franck Hanez. Salut Franck.
Comment salut, ça va?
Nous, on est vraiment, je te le dis, très heureux. C'est que ça a été un peu... Il y a eu quelques rendez-vous manqués, mais on est enfin là autour d'une table.
Je suis désolé.
Mais il y a aucun... on ne t'en veut pas pour ce lapin de dernière minute il y a un an ou deux. On ne t'en veut absolument pas. Tu es là aujourd'hui, c'est le plus important. Et si on a décidé de te lancer une invitation, c'est parce que t'es un homme aux responsabilités et aux talents multiples, puisque tu es, entre autres choses, le fondateur du groupe SoPress, donc SoFoot, donc Society, donc Pédale, donc plein d'autres choses encore. Mais j'en dis déjà trop. En effet, dans cette émission, c'est l'invité qui se présente. Alors, on t'écoute, Franck.
Ah, eh ben, enchanté, je m'appelle Franck et je fais de l'artisanat, en fait, je fais des films, des magazines, des disques, tous les trucs qui aujourd'hui devraient plus exister parce que c'est un peu comme la sidérurgie dans les années 90, tu vois. J'ai l'impression que je fais que des trucs qui rapportent plus d'argent, mais que j'aime bien faire, et si possible avec mes potes, et c'est le cas, donc voilà. Un petit, voilà.
Une belle petite introduction.
Une petite PME familiale avec les amis.
Dont on reparlera bien évidemment un peu plus tard dans ce numéro. Merci. Maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et entamer ce nouvel épisode de Game Changer. C'est parti. Pour que ce podcast existe, il faut un album. Et donc, nous avons demandé à Franck de nous sortir de la casquette dont il ne se départit jamais, un disque qui a beaucoup compté pour lui, à un moment clé de sa vie ou de sa carrière professionnelle. Un disque qui va, évidemment, servir de point de départ à cet épisode. Et là aussi, le titre de cet album, c'est toujours l'invité qui nous le dévoile. Donc Franck, encore une fois, c'est à toi, fais-toi plaisir.
Et alors le titre, là, il est superbe, c'est « Viva Dixie Submarine Transfusion Plot », tout dans le même mot. Qui est le premier album d'un groupe qui s'appelle Sparklers, qui est en fait le pseudonyme d'un homme qui s'appelle Mark Linkous, qui est un chanteur folk, enfin ou un songwriter folk, rock, pop, je sais pas comment on peut le décrire.
Rock alternatif.
Rock alternatif.
Dans cette émission, c'est toujours mon acolyte, en l'occurrence aujourd'hui, Nico, ouais. Qui va rapidement nous faire la petite histoire de ce disque et puis on en reparle juste après.
Rapidement, j'ai essayé, mais en effet, grand disque, donc j'ai peut-être fait des tartines. Viva Dixie Submarine Transmission Plot, c'est donc le premier album studio du groupe de rock indépendant américain Sparkle Horse, sorti en août 1995 aux États-Unis et en mai 1996 au Royaume-Uni. Viva Dixie Submarine Transmission Plot, qui répond également au petit nom de Viva Dixie, que je tenterai de ne pas employer par respect pour la mémoire du grand Mark Linkous disparu en 2010. Viva Dixie Submarine Transmission Plot, donc un mélange de vieilles chansons que Linkous avait écrites des années auparavant, comme Someday I Will Treat You Good, et d'autres qui auraient été écrites quelques heures seulement avant d'être enregistrées, comme Cow ou Weird Sisters. Surtout, c'est un disque, et je le dis avec amour, bien étrangement branlé. Linkous le dira lui-même, il ne savait pas vraiment ce qu'il faisait en studio, mais on peut au contraire imaginer qu'il faisait justement absolument tout ce qu'il souhaitait. Linkous a délibérément utilisé des sons étranges tout au long de l'enregistrement de l'album. On peut y entendre par exemple un message laissé par sa mère, ou sur Ballad of a Cold Lost Marble, le son qu'un amplificateur défectueux produisait lorsqu'une guitare y était branchée. Une boîte à rythme a également été utilisée par endroits, donnant lieu à une bonne blague de Monsieur Mark Linkous dans le livret, puisqu'il remercie Al et Sis à la batterie, allez-y, s'étant tout simplement le nom du modèle. Bref, Viva Dixie Submarine Transmission Plot, dont le titre lui serait apparu en rêve, est un album cabossé, maladroit, foutraque, comme son auteur. Car Viva Dixie Submarine Transmission Plot,
courageux,
c'est avant tout Mark Linkous. David Lynch a rendu un hommage vibrant à Mark Linkous après la mort brutale de ce dernier par suicide en 2010. C'était un véritable puriste, sa tendresse le mettait à part des autres et ça transparaissait dans sa musique. Une tendresse et une discrétion donc, mais aussi un mal-être. Né à Arlington, en Virginie, en 1963, Frederick Mark Linkous, après avoir fourbi ses premières armes à New York puis à Los Angeles, était retourné en Virginie auprès de sa famille. Avec Sparkle Horse, son nouveau groupe, Mark Linkous allait enfin rencontrer le succès, mais sans jamais chasser ses idées noires. Et c'est là que Viva Dixie Submarine Transmission Plot prend une autre dimension. Écouter, réécouter Linkous, c'est désormais y entendre, disons-le, un mort. Et donc, conjuguer les chansons au passé. Prenons l'un des singles les plus évidemment pop, voire FM du disque, Someday I Will Treat You Good. Quand Linkous chante « Everything that's made is made to decay », tout ce qui est fait pour pourrir. Difficile désormais de n'y voir qu'une complainte, une romance avortée, impossible de ne pas y entendre, à tort ou à raison, peu importe, le sombre destin d'un homme, trop bon et sans doute trop talentueux pour ce monde.
Merci Nico. Donc, nous sommes en 1995. Mm-hmm. Alors, avant de rentrer vraiment dans le disque, en 1995, Franck, toi, t'en es où dans ta vie privée, dans ta vie professionnelle, quand sort ce disque ?
Quand sort ce disque, moi, je suis vie professionnelle neutre, puisque je suis au lycée. Donc, on ne peut pas vraiment parler d'une vie professionnelle. J'ai une vie personnelle qui est essentiellement axée autour du football et de la musique. Donc, je passe mon temps à jouer au foot. Je crois qu'à l'époque, je pense encore que je peux devenir footballeur professionnel. Donc, c'est vraiment un mec qui n'est pas tout à fait fini, quoi. Mes copains sont en train de le devenir petit à petit. Et puis moi, je fais de la guitare. Je monte des groupes avec mes potes où on fait des reprises ou des premières petites compositions un peu maladroites. J'ai un pote qui est celui qui m'a mis à la guitare, qui s'appelle Benoît Mignard. Et qui me fait écouter ce disque, enfin qui m'apporte le disque et qui me dit « Faut que t'écoutes, ça va te plaire. » Je crois qu'en plus, il y a de la contrebasse dedans. Et c'est ça, moi, qui me dis « Ah putain, un disque de pop avec de la contrebasse, cool, je vais écouter. » Et j'écoute le disque et effectivement, c'est une révélation assez immédiate. En fait, je tombe vraiment complètement amoureux de ce disque qui, effectivement, avec des sons très fantomatiques, avec une production qui, selon moi, fera de Mark Linkous le meilleur producteur des années 95-2010. Un truc de tendresse, de fragilité et une émotion à chaque morceau, quoi. C'était vraiment un disque qui est devenu très vite, tout de suite, hyper important pour moi, en fait. Parce que c'est un disque qui est assez idéal pour accompagner tous les moments de la vie, en fait. C'est un disque qui te permet d'être très concentré, c'est un disque qui te permet d'être très triste quand t'es très triste, et d'être, je trouve, très heureux quand t'es heureux aussi, parce que t'as à la fois des chansons très énergiques, assez power pop, tu disais « Someday I Will Treat You Good », c'en est une, I'm Like the Cramps aussi, enfin, il y en a plusieurs sur le disque qui sont quand même assez power pop, et puis t'as des chansons qui sont d'une mélancolie et d'une subtilité, d'une justesse totale, quoi, absolue. Et c'est, et je sais pas, je l'écoute, mais vraiment, je pense que je l'écoute vraiment toutes les semaines depuis 1995. Donc,
ce genre de disque.
Ouais, c'est, je pense, le disque que j'ai le plus écouté de toute ma vie, en fait. Enfin, c'est même pas je pense, c'est sûr.
Le génie de Mark Linkous consistait à transformer le tordu et le cruel en tendre et transcendant. Alors, je dis tout de suite, c'est très beau, mais c'est pas de moi. La traduction est de moi, mais par contre, l'original, c'est du journaliste du Guardian qui a écrit sa nécrologie à l'époque. Est-ce que c'est une bonne description pour toi, Franck ? Parce que moi, j'ai le sentiment que pour beaucoup de monde, Sparkle Horse, c'est un peu le genre de musique pour les gens qui trouvaient qu'Elliot Smith, c'était du Patrick Sébastien.
Cette phrase, elle est terrible. Non, Elliot Smith, c'est super.
Terrible pour Patrick Sébastien.
Je suis fan d'Elliot Smith aussi. Je déteste Patrick Sébastien. La phrase du Guardian est très juste, ouais. Et je dirais d'ailleurs que Mark Linkous et Elliot Smith ont ça en commun, qu'ils ont prouvé qu'on pouvait être à la fois très viril et très tendre, en fait. Et moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi et qui a vachement compté pour moi sur le rapport à la masculinité, etc. Et que Mark Linkous ou Elliot Smith, d'ailleurs, pour le coup, au même niveau, tu vois, ils avaient des physiques très j'allais dire presque un peu brutaux. Enfin, tu vois, il y avait un truc un peu. C'était des vrais mecs, quoi. Et en même temps, il y avait une vraie fragilité. Et en fait, me dire que tu peux être très masculin et en même temps très fragile, bah, du coup, c'était très décomplexant pour le type de 18 ans que j'étais à l'époque et qui se sentait pas forcément hyper d'une virilité incroyable, mais qui se sentait peut-être un peu d'une bonne petite fragilité. Et du coup, non, mais ça m'a toujours vachement décomplexé, y compris dans le rapport aux émotions, etc., etc. C'est, je trouve que voilà, ils ont touché quelque chose qui est très important en fait et qui est aujourd'hui très actuel. Par ailleurs, le rapport à la masculinité a quand même vachement changé et je trouve qu'ils avaient quelques décennies d'avance sur ce qui se passe aujourd'hui.
L'autre point commun entre Sparkle Horse et Elliott Smith, c'est une certaine forme de production, ou même, on pourrait dire, d'absence de production. C'est-à-dire que c'est des albums... C'est un peu...
C'est très produit. C'est très do-it-yourself, mais très produit. C'est-à-dire que Elliott Smith, il y avait un truc très brut où il pouvait prendre une guitare.
Après,
après, ça s'est complexifié. Mais à l'époque de Either Or encore, tu vois, c'est genre quand il fait Angeles, ou quand il fait Between the Bars, etc., c'est une guitare. Tu vois, il n'y a même pas de batterie. Enfin, t'y vas direct. Tu peux la jouer comme ça. Sparkle Horse, c'est quand même, et d'ailleurs c'est pour ça qu'en live c'était un peu plus fragile, c'est que c'était vachement trituré en fait et vachement bossé, et donc du coup c'était difficile à reproduire en live parce qu'il y avait pas mal de petits effets, de petits sons enregistrés, de ici effectivement la voix de sa mère, là une bande qui tourne à l'envers, etc. Donc il y avait plein de petits aspects comme ça de production qui en faisait d'ailleurs un producteur assez balèze en fait. Quand il a produit des disques pour d'autres, c'est toujours magnifique en fait, et il avait ça quand même en lui, quoi.
Tu le percevais, ce côté un petit peu, il y a un côté chasse au trésor avec ce disque, c'est-à-dire qu'on va repérer, comme tu dis, la bande à l'envers, le message de... Tu le repérais déjà dès la première écoute ou tu t'es juste pris l'album rock en pleine tronche?
Non, tu le repères tout de suite en fait, tout de suite tu te dis waouh, il y a un truc chez ce mec qui n'est pas comme les autres, parce que effectivement les sonorités sont pas les mêmes, les traitements sur les voix sont vachement travaillés, c'est jamais t'as l'impression que c'est à la va comme je te pousse, et que mais en fait non, c'est hyper bossé en fait, il est hyper hyper pointu, quoi. Et quand il a fait son disque avec Danger Mouse, c'est, tu sens bien que en fait là-dedans, le mec qui prend le pas et qui est le plus costaud en production, c'est Sparkle Horse. Parce que en fait on a tendance toujours à confondre production et technique. En fait, un bon producteur, c'est de la direction artistique, en fait. C'est vraiment... tu vois, c'est pas forcément quelqu'un qui est très fort techniquement. Je pense pas que Mark Linkous soit très fort techniquement. Mais par contre, c'est quelqu'un qui a une direction artistique qui est très précise, et il a une vraie personnalité, en fait. Et c'est en ça que ça fait, je pense, de lui l'un des meilleurs... Enfin, si ce n'est pour moi, en tout cas, le meilleur producteur de musique dite rock entre 95 et 2010, quoi.
Ça me fait penser à cette interview de Rick Rubin, qui est sorti il y a quelques temps, où l'intervieweur lui dit: vous savez lire la musique? Non. Vous savez utiliser une table de mixage? Non. Vous savez, il répond non 10 fois de suite, et le mec lui dit: mais en quoi, en gros, consiste votre taf?
La direction artistique.
Et c'est de la direction artistique. Ouais. Et c'est assez...
C'est ce qu'on appelle le bon goût, mais qui est ouais, très relatif. Mais en fait, c'est de la personnalité. En fait, c'est comment t'arrives à mettre de toi dans une production et dans des trucs qui paraissent infimes, mais qui font la qualité d'une chanson à la fin, et en tout cas de son enregistrement et de la façon dont elle est interprétée. Donc Eric Rubin, qui est d'ailleurs dans le prochain numéro de Society, c'est typiquement ça. C'est un mec en soi, c'est pas un grand musicien, c'est pas un... mais il a du flair, et il sent un truc de l'air du temps qui est précieux, quoi.
Moi, en tout cas, moi, si je devais décrire la musique de Sparkle Horse, pour revenir sur ce que tu disais, moi, je la trouve parfaitement imparfaite. Je pense que c'est ça, sa vraie force. Mais si j'ai fait cette comparaison un peu malheureuse, j'en conviens, avec Patrick Sébastien, c'est que je trouve, moi, que l'héritage de Sparkle Horse, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on limite ça énormément au côté très dépressif. Bon, c'est pas aidé par la trajectoire qu'a connue Mark Linkous, alors qu'en fait, et Nico l'a esquissé un peu dans sa chronique, il y a aussi des chansons extrêmement pop et en fait extrêmement joyeuses dans ce disque.
Ouais, dans ce disque, il y a des chansons joyeuses, et puis il y en a eu par la suite. C'est pas quelqu'un qui était forcément dans du rock sombre ou de la musique sombre à tout prix, mais c'est quelqu'un qui savait faire des très belles mélodies. En fait, il y a des mélodies à chaque fois. C'est un mec dont la chanson principale, enfin la première chanson du disque, a été ce que je susurrais à l'oreille de ma fille pour l'endormir quand elle avait entre un mois et un an et demi, quoi. Le soir avant de dormir. À chaque fois, je lui susurrais Homecoming Queen. Voilà, la mélodie, elle est incroyable.
T'as eu l'occasion de le rencontrer avant son décès ou pas ?
Ouais. Et même assez fièrement, en fait, il avait fait une reprise d'un autre mec que j'adore qui s'appelle Daniel Johnston, une chanson qui s'appelle Hey Joe. Et en fait, il me disait qu'il aurait adoré travailler avec Daniel Johnston. Et du coup, j'ai filé le numéro de Dick Johnson, qui est le frère de Daniel Johnson, pour qu'ils travaillent ensemble, etc. Et en fait, il n'avait jamais osé l'appeler. Et c'est finalement sa mère à lui. Donc la mère de Mark Linkous a quand même une importance dans sa vie, qui a appelé la mère de Daniel Johnson. Et Mark Linkous s'est retrouvé à produire un disque de Daniel Johnson. Donc je ne suis pas à l'origine du fait que Mark Linkous produise le disque de Daniel Johnson, mais quand même...
T'as envie de croire que quand même.
J'étais pas loin d'une mise en contact. Donc oui.
Par rapport à Linkous et par rapport à d'autres, t'es comment sur cette idée qu'il faudrait pas forcément rencontrer, encore moins interviewer ses idoles ?
Alors moi, j'ai pas de truc d'idole, en fait. C'est-à-dire que moi, je peux rencontrer n'importe qui. C'est pareil. Enfin, tu vois, que je sois en face de toi, en face de Linkous, pour moi, il y a aucun.
D'accord.
Je considère toujours que je suis largement au-dessus de tout le monde, donc il y a aucun problème. Je rigole.
Mais... Il est là le secret.
Mais. Non, mais je suis pas du tout impressionné par les gens.
Ok.
En fait, donc avec tout le talent qu'ils peuvent avoir ou quoi que ce soit, je ne fais pas de différence entre lui donc et.
Pas de risque d'être déçu.
Non, t'es déçu quand tu crois que c'est quelqu'un de bien et que ça s'avère être un con. Mais ça, que ça soit quelqu'un que t'admires pour son talent ou quelqu'un qui est juste à la caisse d'un supermarché, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que si j'ai un caissier au supermarché qui est con, ça me saoule autant que si je rencontre, je sais pas, un acteur que j'aime bien et qui s'avère être con au final, quoi.
C'est un disque qui a ouvert des portes quand tu l'as découvert, parce que t'étais déjà musicien, donc t'étais déjà assez
J'étais pas rock. J'étais pas musicien. Musicien, je suis toujours pas musicien. Enfin, musicien, ça fait genre un mec qui sait vraiment. Moi, je joue très mal de plusieurs instruments. Et j'ai compris très vite, d'ailleurs, que valait mieux faire ses propres chansons plutôt que massacrer celles des autres. Je m'amuse rarement à reprendre Sparklers. Ça m'est arrivé sur scène avec un groupe avec lequel je jouais qui s'appelait 51 Black Super. On reprenait Happy Man de Sparklers. Ça m'arrive des fois de faire des reprises, mais sinon c'est plutôt que des compos, quoi. Je pense que tous les disques auxquels j'ai pu participer, que ça soit en tant que membre du groupe ou en tant que producteur ou directeur artistique de label, ça fait un bien, non bien pompeux, mais bon, c'est ça. Ça a joué. C'est-à-dire que ce disque-là, il y a toujours eu un truc chez moi qui fait que j'ai toujours essayé de ramener quelque chose de ce disque dans les projets auxquels j'ai pu participer, quoi. Et tu le retrouves après, quelqu'un qui a une oreille un peu aiguisée et qui connaît bien le disque, il retrouvera toujours des trucs de ce disque dans tous les trucs auxquels j'ai participé, que ce soit des disques de Edge Burns, que ce soit des disques de Future Max Super ou que ce soit même là dans EMPRS. Il y a plein de trucs de Sparklers dedans, en fait.
Et moi, quand je pense à ce disque, s'il y a un morceau moi, qui me vient directement à l'esprit, c'est Rainmaker. Ouais. Mais principalement...
Parce que tu l'as vu à nulle part ailleurs.
Exactement. Mais moi, à l'époque, c'était, je pense, mon principal canal de découverte musicale. Ouais. C'était les lives de Nulle part ailleurs.
C'est un live très connu
Non, c'est un live. C'est juste que moi, je les enregistrais religieusement. Tous les soirs.
Par ailleurs, sur Canal+, pour les gens qui ne se souviennent pas de cette émission.
Qui n'ont pas notre âge, ouais. Voilà, moi, c'est ce morceau-là que j'ai poncé, qui est exceptionnel. Toi, quand on a un peu parlé du disque pour préparer cette émission, tu nous parlais plutôt de Saturday, qui était vraiment pour toi le morceau, un peu la pièce...
C'est ma chanson préférée.
Comment tu pourrais la vendre aux gens qui écoutent cette émission ?
Bon, c'est une très belle chanson d'amour, tout simplement. Et par ailleurs, il s'est suicidé un samedi.
Ouais.
C'est un peu glauque comme chute.
Ouais, mais quand je disais que justement, du coup, on conjuguait toutes les chansons passé, enfin voilà, on réinterprète beaucoup de choses de ce disque à la lumière de ce qui s'est passé.
Et tu parles de son suicide, malheureusement. Est-ce que tu trouves que Mark Linkous, ça correspond parfaitement à l'image qu'on se fait un peu de l'artiste maudit ?
Pas tellement, en fait. Non, c'est musicalement, oui, sans doute. Mais après, le bonhomme en lui-même, Moi, tu vois, quand il s'est suicidé, franchement, ça a été un choc parce que je m'y attendais pas du tout, en fait. Alors après, on n'était pas intime ou quoi que ce soit, loin de là. Donc, ouais, mais je m'étais pas dit, ce mec peut se foutre en l'air, tu vois. Alors que Elliot Smith, qui par ailleurs, je suis pas sûr qu'il soit vraiment suicidé tout seul. ça, c'est une autre histoire, mais. Bon, tu pouvais plus sentir quand même le côté, tu vois, rapport à la drogue, machin, etc. Enfin, un truc vraiment très, très deep. Mark Linkous, il y avait quand même un peu moins ça, je trouve.
Bah, ça dépend des disques. Tu vois, moi, je pense à un album comme It's a Wonderful Life. Et quand t'écoutes le premier morceau qui s'appelle It's a Wonderful Life, quand tu vois comment il chante ce morceau qui dit c'est une vie merveilleuse, le morceau, il est quand même pas, il est quand même pas. Enfin, en tout cas, moi, je ressentais quand même pas mal de. Non, mais moi, après, ça m'a moins étonné, tu vois.
Mais tu vois, moi, quand j'écris des chansons, j'écris que des chansons tristes, tu vois. Bon, c'est pas pour ça que je vais me foutre en l'air demain. Tu vois, je veux dire, tu peux écrire des chansons tristes et pas te foutre en l'air, tu vois. Et même la plupart des gens, c'est le cas. Lui, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment ça dans son attitude, dans ce qu'il dégageait. Même, je crois que ses amis ont été assez surpris hein, de son suicide. Ça a été assez soudain, en fait.
Mais moi, quand je parle aussi d'artistes maudits, je peux prendre deux exemples. C'est que c'est quand même un groupe qui a tourné avec Radiohead sur la tournée OK Computer. C'était quand même une tournée assez énorme.
Marché, je crois,
Et quand tu vois des groupes comme bah, parce que Radiohead choisit toujours très bien ses premières parties. Tu vois Sigur Rós, tu vois Grizzly Bear, Caribou. Bah, t'as le sentiment que malheureusement, Mark Linkous, Sparklers, ils n'ont pas vraiment pu profiter. Ça ne s'est pas matérialisé. Et puis, tu as parlé de cet album avec Danger Mouse, qui est très bien, mais qui a été aussi foutu au placard par EMI pour une histoire assez sombre. On en a encore du mal. Enfin, apparemment, c'est peut-être une histoire de vengeance aussi vis-à-vis de Danger Mouse, qui faisait un peu du mal à l'industrie, parce qu'il apparaît à cette époque-là avec justement The Grey Album, qui était l'album de mash-up entre
incroyable disque, entre Jay-Z et les Beatles.
Et les Beatles.
Le Black Album.
On n'a jamais trop connu le fin mot de l'histoire, mais ce que je veux dire ici, c'est qu'on m'enlèvera jamais de la tête que Sparklers n'aura jamais eu la reconnaissance qu'il méritait, alors que tu avais quand même le sentiment que tout a été fait pour que ce groupe, à un moment, bosse avec Danger Mouse, tourne avec Radiohead. Je veux dire, comment ça se fait que eux, ça n'a pas marché? C'est juste incompréhensible.
Ouais.
Bah, après, une question de désir.
Après, il y a un petit truc d'accessibilité aussi. Je pense que les chansons ne sont pas les plus évidentes du monde. Et il savait très bien, lui-même, foutre un peu en l'air ses morceaux, quelque part. Tu vois, c'est-à-dire que, alors qu'il y avait des lignes mélodiques qui étaient parfois très pop et assez évidentes, tu vois, il avait tendance à rajouter des distorsions, des choses un petit peu plus complexes, des filtres sur les micros qui rendaient le truc un peu moins facile. Enfin, c'était pas quelqu'un qui allait vers la pop, quoi. Tu vois, là où Elliot Smith, par exemple, avait des chansons qui étaient assez pures, et finalement, à partir du moment où il a joué aux Oscars, machin, tu vois, c'est devenu vraiment quelqu'un d'assez important dans le paysage du songwriting. Mark Linkous, il restait quand même un petit peu à l'arrière-ban et qui était un peu outsider, quoi, tu vois. Il a toujours eu ce petit côté-là, quoi. Enfin, tu vois, il était en Virginie dans son espèce de bâtisse un peu glauque à réparer ses moteurs de bagnole et à répéter avec ses potes. Il y a un documentaire hollandais qui est super d'ailleurs sur Mark Linkous, où tu le vois dans sa baraque avec ses moteurs et ses répètes et partir en tournée en remplissant le coffre de son break pour aller jouer dans des trucs hyper glauques. Et à l'époque, c'est pas Mark Linkous qui débute, hein, c'est un Mark Linkous qui est déjà pas au sommet mais pas loin de ce qui sera le sommet de son art en fait. Et c'est encore un mec qui remplit un pick-up pour aller. Pour aller jouer, quoi. C'est pas, il n'a pas 50 000 rodis et des tourbus de ouf, quoi.
Parce que toi, tu parles beaucoup d'Eliot Smith pour créer une sorte de parallèle.
Ouais, parce que je vois qu'il y a un parallèle.
Ouais, moi, j'ai plutôt envie
Dans la qualité d'écriture de chansons.
Moi, de faire un parallèle avec Hills, par exemple.
Ouais.
Parce que, tu vois, pour moi, Hills.
Pour le côté un peu distorsion et compagnie, sauf que le côté un peu distorsion des sons de Hills, il est beaucoup moins organique que ce que faisait Sparklers. Il y a un truc plus FM déjà dans
Oui, puis il mettait un peu plus de lumière dans sa musique. Je trouve que parfois, tu vois ce que je veux dire, c'est que alors je sais pas si c'était
parce
une envie.
C'est pas les mêmes personnalités. Je pense que E de Hills, il a un côté un peu
ça peut tous les deux marques finalement.
Ouais, il s'appelle tous les deux marques, ouais. Mais Mark Everett, je crois que c'est Everett son nom de famille.
Mark Oliver Everett.
Ouais. Il a un côté beaucoup plus showman. Tu vois, c'est un peu un petit malin, Mark Everett. Mark Linkous, c'est pas un petit malin. C'est juste un mec.
Il calculait pas, lui.
Non, il y a zéro calcul. Le mec, il est pas là pour faire le show. D'ailleurs, quand tu vois ses lives, tu sens que des fois, il y a des lives qu'il a fait où tu sens qu'il était pas au top. tu sens qu'il a pas envie d'être là, en fait. Et ça rend pas le truc forcément moins beau, hein, mais ça rend le truc un peu accidenté quand même.
Légèrement cabossé, ouais.
Et ouais, il était. Ouais, c'est, il vient d'une famille de mineurs. Hein. Mm-hmm. Enfin, tu vois, ça joue aussi, quoi. C'est un mec qui. Son père est mineur, son oncle est mineur, tout le monde est mineur, dans son grand-père aussi, je crois, de mémoire. Donc, toute la famille est dans la mine, quoi. Et lui, son destin, c'est d'être mineur, en fait. Mm-hmm. Et il s'en sort parce qu'il est fan d'Alice Cooper et qu'il veut faire du rock et qu'il veut avoir les cheveux longs. Mais tu vois, à un moment donné, il est en hôpital psychiatrique assez jeune, pète les plombs, il défonce une bagnole, machin et tout, etc., dans laquelle il est enfermé. Parce que, et ses parents veulent l'emmener chez le coiffeur, lui, il veut pas, il veut avoir les cheveux longs et il veut écouter Alice Cooper. Et il est vraiment dans un truc, dans un rapport qui est assez, assez physique à la musique. Je pense que vraiment, pour lui, il y a un truc de question de vie ou de mort, ouais. Tu vois. Qui est moins le cas, je pense, de Marc Everett, qui a un rapport plus ludique à la musique, qui a un rapport peut-être, tu vois, pas au sens petit branleur, mais au sens quand même, bah, il sent bien que c'est une industrie, il a un talent pour faire des chansons, il a un truc.
Ouais, bon. Et puis c'est influencé aussi, je pense, c'était plus par les événements extérieurs. T'as toute cette période où c'est sa sœur qui décède. Enfin, il a eu toute une période très sombre qui a vraiment influencé sa musique, parce que t'écoutes le premier disque de Hills avec Novocaine for the Soul, etc. Il y a une...
Après, c'est quand même un gros malin. C'est-à-dire qu'avec Novocaine for the Soul, il a réussi à faire l'un des albums, je mets des gros guillemets à indé, les plus influents de la deuxième moitié des années 90. On rappelle que c'est signé sur un très, très gros label.
DreamWorks.
C'est la première sortie du label DreamWorks. Ouais. La première sortie audio, donc du label DreamWorks. DreamWorks qui était un studio cinéma, mais également label.
Elliot Smith a été aussi sur DreamWorks.
Exactement. Il y a également une partie jeu vidéo. Enfin, voilà. Donc,
mais je crois qu'Elliot Smith est sur DreamWorks après les Oscars. Je ne veux pas dire de conneries, mais...
Après EXO.
Exactement.
Non, après son passage aux Oscars.
Après le passage aux Oscars.
Après le passage aux Oscars.
Oui, j'ai Miss Misery. Et là, quand il joue Miss Misery en costard blanc, je peux dire que la carrière d'Elliot Smith, c'est plus la même. Après
C'est déjà la fin, quelque part.
C'est la fin, et en même temps, c'est l'hyper-apogée. C'est-à-dire que ça se termine très vite. Parce que, bon,
mais ce qui est dingue, parce qu'on en a parlé dans le dernier podcast, je ne sais pas si tu connaissais cette anecdote, mais Elliot Smith ne voulait pas se produire aux Oscars.
Il ne voulait pas.
Et on lui a dit, si tu ne te produis pas aux Oscars, c'est quelqu'un d'autre qui viendra interpréter ta chanson. C'est-à-dire, absolument, on va venir faire une reprise pour toi aux Oscars. Il y a été un peu contraint.
La chanson est obligatoirement interprétée sur la scène des Oscars.
Ouais, c'est ça.
Ce qui rend assez rigolote la tête de Ryan Gosling quand I'm Just Ken a remporté le Golden Globes de la meilleure chanson originale. Parce qu'il a dû commencer à se dire qu'il allait être obligé de la chanter, au Kodak Theater en live devant tout le monde.
Et il est plus là, Mark Lecuze, mais s'il était encore en vie, tu penses que ça ressemblerait à quoi, Sparklers? Ils en seraient où? Ils sortiraient encore des disques?
Ouais, je pense qu'ils sortiraient encore des disques. Je pense que ça serait pas forcément le top. Parce que sur la fin, ça commençait un petit peu à s'épuiser. Pour moi, il a un peu tout dit sur les deux premiers albums. Le troisième, déjà, commençait un peu, même s'il y a des trucs super dans les Sound of Life, mais il y a des trucs magnifiques.
Moi, c'est presque mon préféré, paradoxalement.
Après, c'est le plus facile d'accès. Mais déjà, tu sens qu'il commence à être un peu sur des formules et qu'il a compris ce qu'il sait faire et qu'il a su un peu le conceptualiser et qu'il le refait. Mais la pureté des deux premiers, c'est fou.
Et tu penses pas que son disque avec Danger Mouse aurait pu lui ouvrir
Non, mais le disque avec Danger Mouse, c'est super parce que c'est une reconnaissance pour lui. Et puis il se retrouve, t'as Gian Casablanca dessus.
Bah ouais, enfin,
t'as des guests qui le crédibilisent et qui font de lui, qui lui rendent un peu hommage finalement et qui rendent hommage à qui il est. Mais c'est clairement pas ses meilleures chansons. C'est pas le Mark Lecuze dans sa plus grande. Et c'est très bien, c'est un projet de maison de disque. Et les chansons sont très bien, et les chansons sont mieux que 95% des chansons qui peuvent être écrites aujourd'hui dans le rock indé en France ou aux États-Unis. Mais c'est un disque de maison de disque. Les deux premiers disques, c'est vraiment fou.
Et t'as écouté son album posthume?
Ouais, c'est dur.
C'est pas terrible?
Non.
C'est triste, ça t'a fait un peu mal que ce truc sorte?
Mais je voulais pas l'écouter.
Ok. Ouais, c'est ça. Genre. T'es pas client de ce genre de.
Je déteste les albums posthumes. Pour moi, c'est une imposture totale. Enfin, déjà, dans le terme, déjà, c'est. Et en plus, il était censé enregistrer chez Steve Albini. Moi, je connais Steve Albini. Ah, ouais. J'ai enregistré chez lui avec Edge Burns. On a enregistré un disque, le premier album d'Edge Burns qui est produit par Vietnam. On est chez Steve Albini. Ouais. C'est impossible que Steve Albini donne les bandes de ce qui a été enregistré avec lui. Donc, ce qui est sorti, je sais pas d'où ça sort, mais. Je vois pas Steve Albini participer à un truc comme ça, c'est impossible. En fait, donc
ça avait l'air d'avoir été validé par la famille.
Oui, par la famille. Non, mais la famille. Alors, la famille, ça veut rien dire.
Ouais. Regarde ce que fait la maman de Jeff Buckley depuis 20 ans.
La famille de Kylian Mbappé. Enfin, tu vois, non, mais ça veut rien dire les familles. Les familles, c'est pas la personne. Tu vois, par ailleurs, la famille de Mark Linkous, je suis pas sûr que Mark Linkous était, à part de sa mère, était très proche de sa famille. Tu vois, enfin, j'en sais rien, mais ça me paraît. Enfin, en tout cas, c'est pas un critère la validation de la famille. Évidemment, il y a de l'argent à prendre. Donc, tu penses que la famille, elle est contente. C'est oui. Sans blague. Ils sont en train de bouffer l'héritage, ces bâtards. Non. C'est un disque très, déjà mauvais, en vrai. Mm-hmm.
Ouais, il est pas
pour l'avoir écouté, c'est pas bon. Et caricatural, en plus. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont voulu essayer de perpétuer ce que faisait Sparklers sans avoir l'once de talent de Sparklers. Il n'y a rien de Sparklers là-dedans, en fait. Si ce n'est quelques prises, mais qui était imparfaite et qui était... Jamais il aurait sorti ça, lui. Donc, voilà. Faut pas écouter les dispositifs.
Voilà, écoutez tout ce qu'il a fait de son vivant. N'écoutez surtout pas pauvre album posthume.
C'est horrible, dispositif, c'est atroce.
Bon, allez, Franck, on va faire une petite pause maintenant. Alors, je dis bien petite pause parce que tu vas quand même être un peu sollicité. Alors, on va continuer de parler de musique, mais dans un contexte un peu différent. Je t'explique, chaque épisode, c'est l'occasion de se replonger dans l'année qui nous occupe, 1995 donc, et d'en extraire trois disques marquants. On en discute brièvement et ensuite, on choisit chacun son petit chouchou, on dit pourquoi. Bref, rien de bien complexe. Allez, pour se mettre dans l'ambiance, un petit échauffement. Franck, si je te dis The Benz, tu me dis...
Radiohead.
Si je te dis The Great Escape...
Blur.
Si je te dis Jack Little Pill.
Je sais pas.
Ah. Nico.
Alice Morissette.
Ah, je suis pas Alice Morissette du tout.
Si je te dis Maxine Quay.
Tricky.
Allez, si je te dis un petit dernier, To Bring You My Love.
Je suis nul en titre, je sais pas.
Une dame anglaise.
P.G. Harvey.
P.G. Harvey. Okay. Exactement. Bon, tu maîtrises pas mal ton année 95, donc voilà. Mais j'ai choisi aucun de ces disques, non. Le premier que j'ai choisi, c'est I Shoot Coco, qui est le premier album du groupe anglais Supergrass. Et c'est surtout, dans l'esprit de toute une génération, l'album d'un single, celui qui va mettre une carrière sur de très bons rails. Ce titre, c'est bien évidemment All Right, ritournelle pop irrésistible, dont le succès planétaire tient
j'aimais
autant...
J'aimais pas du tout cette chanson. Je te coupe, mais j'aimais pas cette chanson.
En tout cas, elle a bien marché.
Ouais.
On va
le
dire
groupe,
ça.
Et Caught by the Fuzz, qui est juste après, je crois.
Bien meilleur.
Bien meilleur.
C'est leur meilleur, on est d'accord, c'est le meilleur titre. Mais en tout cas, All Right, bon, ça a bien marché. Et je pense que ça tenait, bon, quand même à la qualité du songwriting, c'était efficace. Mais aussi à la présence du titre sur la BO, on l'a oublié, du film peut-être Clueless, dans lequel le premier rôle avait été confié à une certaine Alicia Silverstone.
Évidemment, qui
avait
dans le
converti
clip.
Des millions d'ados.
Dans le clip de Aerosmith.
Crazy évidemment. Et Crying. On a tous aimé Aerosmith grâce à Alicia Silverstone. Mais revenons-en à I Shoot Coco. Contrairement aux albums suivants du groupe qui seront plus fins, plus aboutis, plus produits, I Shoot Coco, c'est 40 minutes de Britpop fougueuse. Et puis, c'est surtout des influences très cool qui vont aller chercher du côté de The Jam pour la pop survite animée et des Buzzcocks surtout pour le punk ultra mélodique.
Ouais. Très Buzzcocks.
Bah, Coba de Fuzz, là, c'est du pur Buzzcocks. Ouais. Alors, c'est peut-être pas le meilleur album du groupe, je dirais, mais en tout cas, moi, j'ai une grosse préférence pour les deux suivants, mais c'est celui qui a jeté les bases d'une carrière en tout point remarquable. Alors, j'ai dit Britpop. Alors, soyons fous. S'il ne fallait garder qu'un album ou un titre de Britpop, de toute cette mouvance finalement assez floue dans ses contours, ce serait lequel? Allez, on commence par toi, Nico.
Surprise pour personne, ce serait un album d'Oasis. Je suis un grand fan d'Oasis.
Cigarettes and Alcohol.
En vrai, je pense que je choisirais Beer Now. Beer Now, qui est loin, le troisième album d'Oasis, donc, qui est loin d'être leur meilleur.
C'est pas un titre qu'il faut choisir.
C'était une chanson que
tu peux choisir. Une chanson ou un album?
Je croyais que c'était une chanson.
Bah, je vais choisir Do You Know What I Mean, donc, qui ouvre Beer Now. Mais non, parce que c'est là. En fait, cet album me fascine. C'est un album trop boursouflé, trop grandiloquent. Ils savent plus ce qu'ils font. Il y a pas, on n'entend pas la basse. Toutes les chansons durent 10 minutes. Ils sont défoncés à longueur de journée. Ils se rendent même pas compte que c'est déjà fini finalement, qu'on est en 1997. Ils vont faire un flop à 12 millions d'exemplaires vendus, mais un flop quand même. Tandis que The Verve avec Urban Hymns, à la surprise générale, va un peu rafler la timbale. Enfin, voilà. Je trouve que l'année 1997, pour The Verve, pour Oasis, pour Pulp aussi, une année fascinante. Et en vrai, j'aime beaucoup Beer Now, mais aussi pour tout ce qu'il aurait pu ou aurait dû être.
Ok.
Voilà.
Toi, Franck?
Stone Roses.
Tu associes ça là? Ouais, c'est ça qui est dingue, c'est que quand on parle de Britpop, c'est tellement flou.
Bien sûr.
C'est la pop anglaise, donc, je traduis littéralement, tu sais, je suis bourrin. Hein. Je suis pas le mec qui se bataille sur des chapelles de... de styles musicaux, etc.
Tu ne diras pas Manchester.
Ouais, voilà, je ne dirais pas. C'est la pop de Manchester. Ouais, je m'en fous. Ouais, oui, c'est de la pop anglaise, quoi.
Et ouais.
Ouais, super disque, Stone Roses.
Ouais. Moi, j'aurais dit l'éponyme de Blur. J'hésitais avec l'éponyme de Blur et le premier placebo. Parce que moi, la Britpop, c'est pas. J'ai jamais été fan des Stone Roses.
Tu sais que moi, j'ai adoré le premier placebo aussi.
Ah, mais les deux premiers sont
dingues.
Ah ouais. Je les ai vus en concert cette année, c'est de la merde.
Par contre, c'est assez triste là ce que c'est devenu.
C'est nul en concert.
Et Reski, lui, est le bassiste, c'est ça?
Non, non, lui,
d'origine, ouais.
Non, mais sur trois, t'en as deux sur trois.
C'est le batteur qui a changé à chaque fois.
Mais le batteur, il est complètement remplaçable dans Placebo, en l'occurrence. C'est pas très compliqué à jouer à la batterie.
Les deux premiers. Mais le premier, moi, principalement, parce que je trouve que j'ai pas trop aimé la Britpop. C'est pas quelque chose qui m'a passionné. Par contre, je trouve que là, t'as les prémices. Enfin, ça tourne déjà la tête plutôt vers les États-Unis. L'éponyme de Blur, je trouve Placebo aussi. Ça va chercher un peu dans le post-punk, la musique ricaine. Et je trouve que ça va un peu préfigurer une période qui, elle, va être super importante pour moi. Ça va être le retour du rock, comme on l'a appelé, début des années 2000.
Tu trouves pas que Think Tank de Blur, c'est mieux? C'est leur meilleur album, non? Je trouve, avec Out of Time.
Oui, mais est-ce que c'est un album de... C'est presque pas un album de Blur. Pour moi, t'as pas Graham Coxon dedans.
Et au final... C'est un album de Damon Albarn.
Il y a un morceau, je crois, avec Graham Coxon.
C'est peut-être pour ça que je le préfère. Je crois que je suis plus...
C'est vrai, t'es plus Damon que Graham.
Ah ouais, largement. Ouais.
Mais Graham Coxon a une très cool carrière en solo. Je sais pas si vous avez écouté son side project, là, The Wave, qui est sorti aussi cette année, complètement éclipsé par le nouveau Blur. Très cool au demeurant. Mais The Wave, où il va rechercher cette chanteuse des Pipettes, si vous vous rappelez, des Pipettes. Ouais, c'est quand même ce groupe. Et c'est extrêmement
Graham Coxon qui a sorti en solo deux fois plus d'albums que Blur. Ouais. Et il y a des chansons comme Tell It Like It Is, par exemple. Vraiment des très, très, très belles chansons. Ouais.
Mais attention, j'adore effectivement Think Tank, je trouve qu'il est dingue, mais je ne le considère presque pas comme un album de Blur.
Oui, c'est plus Damon Albarn. Mais Damon Albarn, il est tellement fort.
Et il est, on est d'accord, à part peut-être son petit disque sur l'Islande, là, le dernier, qui était assez anecdotique. Et au final, moi, je ne suis pas du tout, je suis très anti-Gorillaz aussi.
Ah ouais, ah ouais.
Que je trouve d'une inutilité totale.
Comment tu peux aimer MPRS? Ah ouais, mais non, mais nous, c'est notre rêve ultime, Gorillaz, pour MPRS.
Je trouve que l'idée de départ était génialissime. Le premier disque est dingue, mais depuis...
C'est claque sur claque.
Deux albums, là. Tu trouves les derniers albums que c'est...
Tu sais que nous, quand on enregistrait MPRS, du coup, on a enregistré avec les mecs de Farside. Ouais. Et je discutais avec le quatrième mec de Farside qui fait plus partie du groupe maintenant. Et je discutais avec lui sur les réseaux sociaux. Et je lui dis, putain, on est en train d'enregistrer avec tes potes, avec mon groupe et tout. Il me dit, ah, tu me feras écouter et tout. Il me dit, moi, je suis en train d'enregistrer avec Gorillaz.
Pas mal. Mais voilà, ils m'ont complètement paumé. Donc, j'étais très content du retour de Blur et de The Wave l'année dernière. Mais on enchaîne, allez, sans plus tarder, sur la seconde proposition du jour. C'est Exit Planet Dust des Chemical Brothers. Alors que, bon, pas mal d'artistes dont on parle aujourd'hui sont soit morts, soit ils tirent un petit peu sur la corde de notre nostalgie pour payer les factures. Ed Simmons et Tom Rowlands, eux, ils continuent de creuser paisiblement leur sillon et de nous faire danser sur les cendres froides d'un mouvement big beat qu'ils ont contribué à populariser avec des gens comme Fatboy Slim, des gens comme The Prodigy. Et je cite ici que les plus connus, parce que qui se souvient encore des Propeller Heads ou de The Crystal Method? Vous, bien sûr.
Un seul album, mais un chef-d'œuvre.
Bref, s'il ne fallait garder qu'un album dans la discographie
Propeller Heads, ça n'avait même pas fini sur une BO de James Bond, il me semble. Je crois qu'il y a un morceau de Propeller Heads sur une BO de James Bond.
Sur l'album, en fait, ils reprennent le thème de James Bond. Je ne suis pas sûr que ça ait fini sur un film, sur la BO d'un film officiel. Ouais, en effet, ils reprennent le thème de John Barry. Ouais.
Bref, messieurs, s'il ne fallait garder qu'un album dans la discographie du duo, je pense que ce serait probablement le suivant, Dig Your Own Hole, sorti 2 ans plus tard. Mais le grand livre du Big Beat n'aurait pu s'écrire sans les breaks funky, les remontées acides et les samples psychédéliques d'un album qui s'inspirait d'une jeunesse passée à arpenter les meilleurs rêves anglaises. Et condenser toutes ses expériences de vie dans un disque capable d'attirer dans ses filets fans de clavier et fans de guitare, ce qui était quand même un petit exploit, voire un véritable exploit, à une époque où tout était quand même affreusement cloisonné et où les différentes chapelles musicales se regardaient avec méfiance au lieu de se parler, ce qui est heureusement le cas aujourd'hui. Alors Nico et Franck, est-ce que vous êtes assez vieux, je l'espère, pour vous souvenir de la sortie de cet album? Est-ce que vous avez eu la même impression que moi?
Alors moi, j'étais pas...
Ce côté unificateur, un peu.
Ouais, mais moi, sur cet album-là, c'est pas ça qui m'a attiré vers les Chemical Brothers. En tout cas, c'est pas cet album-là qui avait tendance un peu à me fatiguer, je t'avoue. Alors qu'effectivement, le suivant a été sans doute plus accessible pour moi qui venait plutôt au départ du folk, etc. Ouais. Et donc, je pense que du coup...
Est-ce qu'à l'époque, t'écoutais beaucoup de musique électronique? Ou est-ce que grâce à... Parce que cette époque-là c'est Daft Punk, c'est les Chemical Brothers, c'est les débuts des groupes de musique électronique qui débarquent comme des hérétiques dans des festivals de rock, ouais. Où les gens s'indignent.
Je m'indignais pas, mais j'en écoutais pas tant que ça.
Voilà.
Mais c'est J'écoutais plus de hip-hop et de rock ou d'indie rock, on va dire. Que de musique électronique. Et après, quand j'ai écouté la musique électronique, j'étais plus Aphex Twin et...
tous les mecs de Warp.
Ouais, plus Warp dans l'esprit que... Mais après, j'aimais bien Fatboy Slim. Je préférais Fatboy Slim à Chemical Brothers pendant un petit moment. Chemical Brothers, il y avait un côté musique de pub, mais aussi j'étais perverti par le fait que leur musique passait sur des publicités très vite, en fait. Enfin, assez rapidement, ils sont devenus les rois de la musique de pub. Ils ont fait Air France,
bien sûr. Ouais.
Et c'est vrai que du coup, tu les entendais vachement. Je trouvais ça super beau et tout, mais tu vois, j'avais tendance à préférer Death in Vegas, Fatboy Slim,
les Contino Sessions.
Ah ok, pardon.
Donc j'étais plus dans ces trucs-là, ou alors dans des trucs effectivement à la Warp ou des trucs un peu pointus, au Taker machin. Ouais. Et
Fatboy Slim, mais le Spike Jonze, ça a bien aidé aussi.
Ils
étaient dingues. Et puis il y a pour moi ce live de Fatboy Slim sur la plage de Brighton. Je sais pas si on doit considérer ça comme un album live, mais c'est son DJ set sur la plage de Brighton. Il y avait des centaines de milliers de personnes. Ils ont sorti un documentaire là-dessus. Se demander comment ce truc a pas fini en catastrophe, c'est complètement hallucinant. Bref, allez, on écoute la troisième proposition qui va être Wooey Zooey de Pavement. Donc le troisième album des branleurs les plus magnifiques de l'indie américain des années 90. C'est aussi un disque qui a eu la lourde tâche de suivre ce qui est considéré encore aujourd'hui, je pense, comme les deux meilleurs albums du groupe. Deux disques indispensables dans toute bonne discographie indie rock qui se respecte. Slanted and Enchanted en 1992 et Crooked Rain en 1994.
Après, Brighton the Corner, c'est aussi un super album.
C'est aussi un super album.
C'est très fort. C'est peut-être même au-dessus encore.
Tu le trouves au-dessus encore, ouais.
Ouais, je crois,
ouais.
Cut Your Hair, c'est sur Brighton the Corner.
Non, Cut Your Hair, c'est pas sur...
Cut Your Hair, c'est sur Slanted and Enchanted.
Pour moi, les gros tubes de Pavement, ils sont sur Crooked Rain.
Non, t'as Range Life sur Crooked Rain, qui est extraordinaire. Ouais. Et après, je crois que c'est beaucoup sur Brighton the Corner.
Ah, faudra qu'on ait vérifié. En tout cas, il était écrit que rien...
Chez D-Lane, c'est sur
Brighton. Chez D-Lane, c'est sur
Brighton the Corner, ça, c'est ce qui est quand même extraordinaire. Non, et Pavement, c'est fort.
Mais en tout cas...
Mais With the Wii, c'est leur plus mauvais album, je trouve.
Tu trouves?
Ouais.
Bon, on va en reparler dans un instant, parce que...
C'est très bien, mais il n'y a pas de tube.
Ben, surtout, le problème, c'est que ce disque, donc, il arrive après ces deux très, très gros albums. Alors, sur With the Wii, on entend de l'humour, de la disto, de la pop, et bien sûr, cette espèce de dilettantisme de façade qui cache en fait assez mal le soin que mettait le groupe à pondre des mélodies imparables et créer des atmosphères quand même assez particulières. Ce qui a fait d'ailleurs dire à certains que si le groupe n'avait pas eu cette attitude j'en foutre et n'avait pas dissimulé ses meilleurs compos derrière un petit voile arty, ils auraient pu prétendre au succès d'un Weezer qui, à cette époque-là, avait pas encore sorti Pinkerton, mais avait déjà sorti l'album bleu. En tout cas, c'est un album qui a pas eu le succès qu'on attendait, peut-être parce qu'il n'y avait pas dessus effectivement Range Life, Cut Your Hair, qui étaient sur les albums précédents, j'en suis sûr. Je pense. Tu me fais douter. Bref, Wooey Zooey a été considéré.
T'as un côté plus encyclopédique que moi.
Bon, j'ai un côté Wikipédia qui a vérifié avant, tout simplement.
C'est ça. Moi, c'est à la mémoire.
Donc Wooey Zooey a été considéré comme un disque mineur et décevant à sa sortie. Toi, tu dis que c'est leur plus mauvais pour toi?
Non, leur plus mauvais, j'exagère peut-être, mais oui.
Un mauvais disque de Pavement reste un bon disque déjà.
Non, mais moins bon parce que quand t'as Range Life, en fait, Range Life, elle a un côté très pop, très évident, donc sur Crooked Rain, et avec ce clip en festival, machin et tout, etc., qui est hyper cool. Après, t'as des chansons. En fait, eux, leur grande force, c'est un truc de slacker, quoi. C'est-à-dire qu'ils jouent tout au fond du temps. Tout le temps, ça joue au fond du temps. La batterie, elle est toujours au fond du temps. Et c'est ça qui fait leur patte. Et c'est pour ça qu'ils n'auraient jamais pu faire Weezer. Parce qu'en fait, s'ils avaient fait Weezer, c'est de la power pop. En fait, Weezer, ça va tout droit.
Mais sur des mélodies peut-être plus soignées. Parce que quand tu vois Range Life, là, tu te dis.
Non, mais les mélodies, elles sont super de Pavement. Tout le temps.
Ah oui.
Mais ce qui fait qu'ils ont moins de succès, je pense, même si ça doit être relatif, enfin, si ils ont moins de succès, c'est que déjà ça chante un peu faux. Donc bon, tu vois, c'est pas toujours facile volontairement. Mais enfin, il y a un truc un peu assumé, mais ça chante un peu faux. Et puis je te dis, le côté tout au fond du temps, ça, c'est quand même pas forcément, c'est pas un truc radiophonique, quoi. C'est-à-dire que c'est rare des trucs de slacker qui passent en radio.
Radio,
quoi.
Ouais.
T'as un côté très oui, très laid back, quoi. Et c'est pas du tout le cas de Weezer. Weezer, t'as vraiment un truc de power pop.
Un peu heavy metal, un peu hard rock.
Enfin, tu vois, c'est la recette ultime du succès power pop. C'est, ça y va, c'est à chaque fois 4 temps, machin, là. Les autres, ils sont toujours dans un truc un peu, ouais, ça traîne un peu, quoi. C'est des chansons de traînards, quoi. C'est des mecs qui...
Ça traîne pas mal, ouais.
Des gars, des mauvais skateurs, quoi. Et bon, moi, j'ai une petite préférence pour Pavement, en l'occurrence. Enfin, je trouve que les morceaux très forts de Pavement sont plus forts que les morceaux très forts de Weezer.
Mais ça va être dur de choisir, parce que pour toi, Franck, entre un album de Supergrass qui n'est pas celui que tu préfères, un album de Pavement qui n'est pas celui que tu préfères, et un album des Chemical Brothers qui n'est pas celui que tu préfères, lequel tu vas quand même préférer dans ces trois-là?
Je pense que je vais prendre Supergrass, en fait.
Ok.
Ouais.
Pour réécouter que, Caught by the Fuzz.
Parce que, ouais, Caught by the Fuzz, et parce que, je sais pas, Gascombs, il y a déjà avec 51 Black Super, on avait refusé de faire sa première partie. Donc, c'est un peu classe.
Parce que, je suis pas indiscret.
C'était à la Gaîté Lyrique, et en fait, c'était hyper prétentieux de notre part, mais on estimait qu'il voulait nous faire jouer en première partie, enfin que son tourneur voulait nous faire jouer en première partie parce qu'ils n'arrivaient pas à remplir et qu'ils avaient besoin d'un groupe local pour faire venir plus de monde. Et on n'avait pas envie de jouer avec un son limité.
Oui, d'accord.
Tu vois, en fait, quand tu fais une première partie, il faut savoir que le son, ils mettent un limiteur pour pas que tu mettes une tarte au mec qui vient derrière, quoi, tu vois. Et je sais pas, ça nous saoulait de faire ça, je crois. Et on a refusé à l'époque. Ce qui était peut-être un peu con, parce qu'en vrai, ça aurait sûrement été super. Et du coup, on avait fait la première partie de Fiddler.
De punk américain.
Ouais.
C'était
super, ouais. Et c'était vraiment cool. Et Outrabendo, c'était mortel.
Ouais. Bah d'ailleurs, Gascombe qui n'a pas une carrière solo, c'est dingue.
Non,
c'est
ça marche pas, en fait.
C'est un gars qui s'est... Je l'ai vu encore au Primavera Porto de l'été dernier. Il n'y avait pas un chat pour aller voir ce gars. Alors ouais, que... Et en plus, il se refuse à jouer des morceaux de Supergrass.
Ouais.
Ce qui est tout à fait louable. Non, mais ouais, on se retrouve avec des...
Il changera vite d'avis, du coup, je pense.
Des pauvres...
Il y a Sunpair. Mais là Gaîté Lyrique, il y a Sunpair, en fait. Je pense que la billetterie devait être très basse. Ils se sont dit, OK, on va prendre un petit groupe français qui envoie un peu. Puis voilà. Et donc...
Donc ce sera Supergrass pour toi, Nico.
Supergrass aussi. C'est pas forcément mon album préféré du groupe, mais on parlait de All Right tout à l'heure, qui est une chanson donc succès monstrueux, succès qui est pas regretté par le groupe, mais même aujourd'hui, enfin il y a quelques années, ils avaient autorisé une pub pour des yaourts où une banque a utilisé All Right et ils avaient dit mais en fait on l'aime plus cette chanson, donc on s'en fout, on va juste faire de la thune avec. Et c'est un peu une chanson dont l'ombre plane sur toute la discographie de Supergrass, c'est-à-dire qu'à partir d'All Right, donc premier single, premier carton, c'était des petits rigolos. Alors que...
C'est le morceau le moins représentatif de toute leur carrière.
C'est leur morceau le moins représentatif, mais il y a le clip aussi où ils courent comme des kékés sur la plage, et à partir de là, je suis convaincu que cette chanson, ce refrain un peu niais, ces quelques notes de piano, et ce clip qui a quand même tourné en boucle à l'époque, a imposé une image à Supergrass qui est genre, en plus, voilà, Gascombs a une bonne gueule, Danny Goffet, le batteur, bonne gueule aussi, enfin voilà.
Tous des bonnes têtes d'anglais.
Ils ont tous des super bonnes gueules.
Voilà,
j'ai des grosses rouflaquettes et tout.
Exactement. Du coup, je trouve que voilà, All Right est un peu devenu malheureux. Il y a une ombre d'All Right sur toute la discographie du groupe, alors qu'il y a des albums super sombres, des chansons comme Mary, mais complètement
Moving.
Folle.
Mais Moving.
Moving, évidemment.
En tube.
Mais tous leurs albums, même Retour Rouen, dont on a moins parlé, qui reste un Rouen, magnifique.
Il y a une chanson qui s'appelle Low aussi.
Et même le nom du groupe, Supergrass, c'est super le nom.
Et même leur Diamond ou Amen, j'avais adoré. Enfin, voilà.
Ah, mais c'est une magnifique discographie. Et moi, je choisirais Pavement. Parce que c'est le premier album d'eux que je découvre. Et j'adore rentrer dans ces discographies magnifiques où tu commences par peut-être ce qui n'est pas leur meilleur. Et puis après, ce n'est plus qu'émerveillement derrière. Mais je l'ai poncé tellement que. C'est un album que j'aime beaucoup, même si je peux comprendre qu'on considère que c'est pas le meilleur. Allez, on attaque maintenant la seconde partie de ce podcast qui va nous permettre d'évoquer tes nombreuses activités. Franck, alors on l'a dit en introduction de ce podcast, tu es principalement connu pour ton personnage de patron de presse, dont la réussite... tient à la capacité à savoir su quand même casser pas mal de codes, bien avant que la presse commence, pour certains magazines, à se casser la gueule. Alors peut-être que pour quand même un peu introduire le sujet, ça pourrait être intéressant, pour ceux qui connaîtraient peut-être un petit peu moins ton parcours, de revenir brièvement sur tes débuts dans cette magnifique aventure qu'est la presse, musicale notamment, et sportive par après.
Je commence, premier magazine que je lance, c'est en 99, c'est un magazine qui s'appelle Sofa, avec des potes, Aimé, Adrien. On lance un magazine de culture, que musique, cinéma, littérature, etc. Qui est un magazine de critique culturelle, assez prétentieux, où on donne notre avis sur des disques, des films.
On dirait Goodmedy.
Des livres. Non, mais, tu vois, il y a un truc un peu, voilà, tout à coup, on a 20 piges et, ouais. Et on estime que notre avis est super important. Je vais relativiser assez vite ce truc-là les années suivantes, mais à ce moment-là, on est là-dedans. Et il se trouve que je suis fan de foot par ailleurs. Et qu'on lance du coup un magazine de foot, en partie d'ailleurs, après une discussion avec les mecs de Supergrass.
Ah bon.
Comme quoi, tu vois. Parce que on passe notre temps à discuter de foot, en fait. Je les rencontre et on parle que de foot, en fait. Et très peu de musique. Et je me dis, c'est quand même bizarre qu'à chaque fois que je rencontre des réalisateurs, des groupes, etc., le sujet principal de discussion, tu vois, pareil avec Damon Albarn, je me rappelle une fois. Je me retrouve à le réveiller dans sa chambre d'hôtel un matin à 9h du mat. Il est fracassé et tout. Et on fait 2 heures à parler de Chelsea et de son amour de Chelsea, etc.
Excellent club.
Et voilà. Et en même temps qu'on prend un petit déj sur son lit, quoi. Et donc, en fait, c'est à chaque fois des rencontres qui font qu'à un moment donné, on se dit c'est ce qui nous réveille le plus, c'est quand même le foot. Et donc, on va créer un magazine de foot, en fait. Et on lance SoFoot comme ça, à ce moment-là. Donc, en vrai, en 2002, mais réellement en 2003. Donc, il y a 20 ans maintenant, ce qui ne nous rajeunit pas. Et puis après, viennent plusieurs autres magazines. On ne va pas tous les retracer et tout, parce que ça va être chiant pour tout le monde. Mais voilà, il y a plein de magazines. On a 12 magazines aujourd'hui qui vont... le plus connu, c'est Society maintenant, qui est un magazine donc, sur la société. Et puis, on a 2 magazines de mode, un magazine de mode homme et un magazine de mode femme qui s'appelle l'étiquette homme et l'étiquette femme. On a un magazine sur l'impact, l'environnement, etc., qui s'appelle So Good, un magazine sur le cinéma qui s'appelle So Film, un magazine sur la musique qui s'appelle Tsugi, qui n'est pas un magazine qu'on a créé, mais qui est un magazine qu'on a racheté sur la musique électronique, essentiellement. Voilà, on a 12 magazines in, quoi.
La dénomination SO, tu le disais, ça, tout vient de sofa, et ensuite ouais. Tu t'es dit on va garder, c'est rigolo, ou il y avait la volonté de créer
une paresse intellectuelle. Okay. Ouais. En fait, souvent ça naît de. Moi, je suis assez fort pour post-rationaliser, en fait. C'est pareil, il y a une espèce de formule que j'ai sortie un jour qui est devenue un peu le truc qui est sorti par tous les 3 H, machin, histoire, humain, humour. Ouais. C'est pareil, en fait, on me demandait quelle était la recette. Et moi, j'ai pas de recette, en fait, j'ai tout fait un peu à l'instinct. Et donc, quand on a créé Sofa, c'était uniquement pour se foutre de la gueule de Technicart au départ, parce qu'ils avaient un truc qui était culture et société. On trouvait ça hyper prétentieux, la façon dont ils parlaient de la société, et un peu caricatural, etc. Même si on les aimait bien, tu vois. Mais on trouvait qu'ils avaient un truc un peu parisien. Et nous, on n'était pas de Paris.
Pas qu'un peu, je pense.
Donc, tu vois,
c'est
et donc, nous, on a monté Sofa parce qu'en fait, ça s'appelait... Au départ, le premier truc qu'on a trouvé, c'était le sous-titre qui était Culture et Grand Coussin, et qui était un truc de petit branleur. Nous, on passait notre vie dans notre canapé à écouter des disques et à regarder des DVD. Et pour certains, à jouer aux jeux vidéo. Moi, j'avais arrêté après 16 ans, mais il y en avait qui continuaient à jouer aux jeux vidéo dans la bande. Et donc, on estimait... d'ailleurs, on avait presque un temps d'avance parce qu'il n'y avait pas encore les réseaux, les networks, Netflix et compagnie. Mais on estimait que la culture allait beaucoup se consommer depuis le canapé, que les gens allaient moins se déplacer, etc. Et que, parce que c'était l'avènement du DVD, c'était l'avènement du CD, etc., etc. Enfin, le CD était déjà un peu... Enfin, c'était déjà là depuis bien longtemps. Mais... et donc, du coup, on avait créé Sofa, comme ça. Et le nom est venu après Culture et Grand Coussin, en fait. Culture et Grand Coussin, OK, Sofa, bon. Hop, on y va. Et après, quand il faut monter un magazine de foot, on ne sait pas du tout comment l'appeler. Donc, du coup... Et ce n'est pas avec les mêmes personnes, en plus. Donc, il y a Stéphane Régis qui était dans Sofa, qui était plutôt sur la partie musique, alors que le mec, il s'y connaît dans tout. Mais bon, à l'époque, il bossait surtout en musique à Sofa. Et du coup, quand on monte SoFoot, c'est avec lui un peu qu'on pense le truc quand même assez vite, et la ligne éditoriale, on va dire. Et c'est vrai que SoFoot, c'est juste Sofa avec qu'on décline en magazine de foot. Et en fait, après, une fois qu'il y a SoFoot qui commence à marcher, là, très vite, on se dit, ah,
on tient
un petit truc avec le SO, il y a un petit truc qui devient un peu propriétaire.
Et t'as pas eu la tentation de renommer Tsugi en SO quelque chose ?
Ça s'appelle SO Tsugi maintenant, mais c'est eux qui ont voulu. Ah. Ouais. Depuis 5 ou 6 ans, ça s'appelle comme ça.
En fait,
nous, on dit Tsugi toujours.
Tout le monde dit Tsugi, mais il y a le SO qui apparaît sur la
SO. Okay, ouais. Moi, j'étais contre, en l'occurrence, mais Alexis et Patrice y tenaient. Donc, après, c'est leur magazine, donc je les laisse faire ce qu'ils veulent. Mais après, j'aime pas faire pipi partout, quoi. Enfin, j'ai pas le côté petit propriétaire terrien à vouloir mettre ma petite marque partout, etc. Je m'en fous, en fait. Donc, tu vois, l'étiquette s'appelle l'étiquette. On a un magazine sur les enfants qui s'appelle Doolittle, qui est le magazine qu'on a créé après SoFoot. Donc, le premier derrière. Et il s'appelle Doolittle, hommage aux Pixies. Par ailleurs, groupe assez très important aussi dans ma vie. Etc. Donc, je ne suis pas absolument tenu par le sceau.
Ouais. Et tu parles d'une naissance qui se fait en réaction, ou plutôt en opposition à Technicard. Mais c'est quoi, tes modèles de l'époque? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as aussi de nouveaux modèles dans l'écosystème culturel, presse?
Non, il n'y a jamais eu de modèle, Il n'y en avait pas au départ. C'est juste qu'on se reconnaissait pas dans ce qui se faisait. Ouais. On trouvait que les Inrocks c'était trop intello et que Technicard c'était trop parisien. Donc on avait envie d'exister nous et on estimait que ce qu'on avait à raconter était différent. Donc ça c'était voilà. Et pareil, quand on a lancé SoFoot, on n'avait pas de modèle. On trouvait juste que France Football, ça nous parlait pas, en fait, et que l'équipe, ça nous tombait des mains. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, bah, et 11 mondiales, c'était passé, quoi. Et donc, on s'est dit, on va parler de foot à notre façon, quoi. Comme on en parlait. En fait, la logique a toujours été la même, c'est-à-dire d'en parler comme on en parle entre nous, entre potes, ou entre, avec les copains, les copines. Donc, quand on parle de culture, quand on parle de société, etc., etc. Alors après qu'on a post-rationalisé, et maintenant on dit on fait du journalisme à hauteur de lecteur, machin, enfin, je peux te faire des théories, je fais des conférences dessus et tout, enfin, mais la vérité, c'est que juste on écrit comme on parle et on raconte les histoires comme on est, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Et il se trouve que les gens qui nous lisent sont sûrement des gens qui nous ressemblent un petit peu. Et en fait, nous ressembler, ça veut pas dire avoir des origines sociales ou c'est des histoires de génération, je pense. Plus parce qu'en fait, tu te rends compte que tu peux, nous, à Sopress, t'as aussi bien des gens qui viennent de province que de banlieue, que de grande ville, des gens qui ont fait des études, des gens qui n'en ont pas fait. T'as vraiment de tout, quoi. Mais c'est juste qu'on a une espèce de petits traits communs.
J'avais eu la chance de participer aux toutes premières réunions de rédaction de Society, ouais, ce qui, encore une fois, ne nous rajeunit pas. Et j'avais le souvenir d'un joyeux foutoir où tout le monde pouvait proposer des idées un peu à droite à gauche. Dans quelle mesure, alors la question se pose pour Society, mais également pour SoFoot, dans quelle mesure ce qui arrive en kiosque correspond à ce qui est prévu au départ?
Est-ce que... Il n'y a rien qui est prévu au départ, en fait. Enfin, je ne sais pas ce que c'est... Enfin, tu vois, prévu au départ, ça voudrait dire que on se réunirait pour décider d'un truc et après... En fait, t'as vu les réunions de rédaction, c'est t'as plein de gens qui proposent plein de trucs. Ouais. Et après, en gros... alors, à l'époque, on faisait le tri à 2-3, enfin, Stéphane, Marc et moi, en l'occurrence. Et puis après, s'il fallait trancher, c'était moi qui tranchais. Et c'était tranché avec la bonne... la bienveillance des autres, parce qu'on se connaît très très bien et qu'on n'est pas dans des luttes d'égo ou quoi que ce soit, on s'en fout, quoi. C'est si on a une bonne idée ou quoi que ce soit, bon. C'est toujours un peu... Enfin, c'est toujours comme ça, en fait.
D'accord.
Et c'est toujours comme ça.
Ok. Mais donc, aujourd'hui, il y a Sopress, il y a les magazines, mais de l'autre, il y a aussi, donc, t'en as parlé un petit peu, de l'audiovisuel avec la boîte de prod. Je pense que c'est aussi une régie publicitaire que vous chapeautez. Est-ce que tu peux un peu expliquer comment tout ça fonctionne? Parce que j'imagine pour les gens qui sont moins experts en la matière, c'est un peu nébuleux. Et puis voir un peu quelles sont les... Alors synergies, je sais pas si c'est un très beau mot, mais les interdépendances qui peuvent exister en toutes ces activités. Comment finalement tout cela doit peut-être tenir en un seul et même ensemble pour exister?
Ouais, alors il n'y a pas forcément besoin que ça tienne en un seul et même ensemble pour exister en vrai, mais il se trouve que c'est... moi j'ai du mal à faire un seul truc, j'ai un petit problème de concentration et j'ai une petite boulimie de faire plein de trucs, voilà. Donc un jour on est venu nous voir en nous proposant de monter une boîte de prod pour faire des films pour Nike, en l'occurrence c'était le patron du marketing de la marque Nike en France qui est venu me proposer ça, et j'ai dit oui. Et on a foncé dans la prod, et à partir du moment où j'ai commencé à mettre un doigt dedans, je l'ai fait à 100% aussi. Et donc on a aujourd'hui trois boîtes de prod. On a deux boîtes de prod qui font que de la pub et une boîte de prod qui fait des documentaires et des longs métrages. Et donc là on a un documentaire qui est sorti sur France 2 d'ailleurs il y a pas longtemps, sur le Malaysia Airlines. Donc on fait des gros docs et puis des longs métrages. Enfin des longs métrages, on en a fait un pour l'instant. Il y en a un autre en développement actuellement. Et puis il y a des projets de développement de séries, enfin il y a des séries en développement, etc. Donc c'est beaucoup du développement sur So In Love, qui est la boîte de prod en question. Et après t'as Sauvage et Also, qui sont des boîtes de prod de pub, qui sont devenues des petites machines de guerre, qui produisent beaucoup de pubs. On produit des pubs pour la Terre entière. Et donc voilà. Et après t'as un label, t'as le Trabendo, qui est une salle de concert à Paris. On a un atelier qui fabrique nos décors. On a une maison d'édition. On a une boîte qui fait que du podcast. Expellal Sound. Donc après, mais c'est que des trucs qui naissent par rencontre, opportunité. Voilà.
Et mais après, est-ce que l'activité la plus visible, celle pour laquelle finalement t'es le plus reconnu, pourrait subsister, continuer, tu penses, sans, sans les autres éléments de l'écosystème? Parce qu'on sait, on va pas se mentir, j'imagine que la presse est pas, traverse pas sa période la plus joyeuse, la plus simple.
Pour la première année, là, on va perdre de l'argent en 2023. Depuis longtemps. Enfin, en 2020, on a perdu un peu avec le Covid, mais on avait réussi finalement à pas trop perdre. 2023, là, on va perdre un peu d'argent sur Sopress, mais effectivement, là, ça va être un peu contrebalancé par les boîtes de prod. Après, c'était aussi parce que moi, j'étais moins en forme cette année, donc du coup, ça a été un peu plus, une année un peu plus compliquée, mais généralement, non, Sopress, à chaque fois, et là, tu vois, 2024, Sopress va gagner de l'argent, et puis après, ça gagne pas, après, la presse, ça gagne pas des fortunes, c'est le seul truc, c'est que une bonne année de Sopress gagne 300 000 euros. Une année normale de Sopress gagne 50 000, 100 000 euros, quoi. 150 000 euros, on va dire. Une mauvaise année de Sopress, ça peut perdre 200 000 balles, mais ça arrive quand même, enfin, ça arrive une fois tous les 10 ans, quoi. Et alors que la prod, une bonne année de prod, la prod gagne 2 millions. Une mauvaise année de prod, la prod gagne 1 million. Donc c'est pas la prod, c'est plus rentable, et puis ça grossit plus vite. Là aujourd'hui, le chiffre d'affaires de Sopress est à près 25 millions d'euros, un truc comme ça, ou 24 millions d'euros je crois cette année, un truc comme ça. Bon, ça doit être à peu près 12-12 quoi. Enfin tu vois, la presse et le reste, enfin et la prod. On va dire qu'il y a deux grosses jambes, la presse et la prod. Mais dans 10 ans, bah la presse sera peut-être toujours à 12 millions et la prod sera à 30 millions. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que le truc qui grossit vite, la prod, il y a 10 ans, c'était 3 millions. Aujourd'hui, c'est 12. Demain, ça sera 30.
Mais tu parles de dans 10 ans, t'as encore foi en la presse papier?
Ouais,
bah. T'y crois encore? Est-ce que c'est encore pas trop difficile, parfois, d'y croire en 2024?
Non, enfin, qu'est-ce qu'on appelle y croire? J'y crois pas pour faire des volumes de ouf. Mais ça, j'y ai jamais cru. Donc, c'est pas un problème. J'ai pas eu de problème de déception ou de. J'ai toujours. Nous, on est arrivé, c'était déjà dur, en fait. Enfin, tu vois, c'était déjà la crise. Hein. Et c'est pas plus ou moins la crise, c'est toujours autant la crise. Donc, c'était déjà la merde. Et nous, on fait une presse qui est quand même une presse qui correspond aux usages de l'époque, c'est-à-dire une presse de plutôt urbaine. Parce que de toute façon les points de vente il n'y en a plus qu'en ville, ça n'existe plus les points de vente malheureusement dans les petites villes etc, ou les petits villages, c'est fini quoi, il n'y a quasiment plus de points de vente, c'est la boulangerie qui vend le journal quotidien quoi, il n'y a plus un vrai kiosque ou un vrai marchand de presse, ou de moins en moins en tout cas malheureusement. Donc du coup nous on a toujours fait une presse qui était quand même un tout petit peu. Les gens vont dire une presse de bobo, tu vois, moi je le prends même pas mal quand on me dit ça, oui, bah oui. Enfin, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire bobo? C'est des gens qui habitent dans les centres-villes, bon, que ça soit des villes moyennes ou des grandes villes, c'est essentiellement ça, et qui essaient de manger sainement et qui préfèrent le vélo au 4x4. Bah du coup, je suis un bobo, ouais, j'ai pas de problème à l'assumer. Et on fait effectivement de la presse pour les gens qui essaient de se nourrir sainement. Je le reconnais volontiers, et tant mieux, même si j'aime bien me faire hamburger régulièrement. Donc, non, mais tout ça pour dire qu'on fait une presse qui a plus de chances de survivre que d'autres presses. La presse qui est très en danger, c'est la presse quotidienne, parce que le flux de l'information fait que la presse quotidienne va mourir en tant que presse. Mais par contre, enfin, c'est déjà le cas, plus ou moins. Mais par contre, elle est devenue tellement forte en digital. Tu vois ce que fait Le Monde en digital, c'est extraordinaire. Enfin, c'est vraiment brillant, quoi. Donc, du coup, et c'est ça, eux, l'avenir. C'est pas de faire des journaux papier. Et donc, t'as une espèce de peur du milieu qui est, ah, il y aura plus la presse quotidienne. Non, Mais il faut déjà s'y faire, en fait. Parce que si on croit qu'elle va durer la presse quotidienne ad vitam aeternam, c'est faux, en fait. La presse quotidienne, c'est mort. Ça, pour le coup, ça va être très digital. En revanche, te taper un récit de 30 000 signes sur un site internet, bon, c'est un peu plus compliqué, quand même.
Ouais. T'arrives encore à avoir un regard sur tout? Sur tout ce que fait SoFoot, tout ce que fait Tsugi, pour parler des
Tsugi, non, pas du tout. Ouais. Tsugi, je laisse faire leur truc comme ils veulent. SoFoot et Society, là, je m'y recolle pas mal en ce moment, par goût, parce que ça me manquait, et que j'étais, enfin, que j'avais un peu dérivé à faire un peu trop de prod. Enfin, je faisais vraiment beaucoup, beaucoup de prod.
Tu étais souvent en tournage, ouais.
Ouais, j'étais souvent en tournage. Et j'adore les tournages et tout, mais c'est vrai que... je crois que j'ai envie de refaire pas mal de presse. Donc, du coup, là, je refais pas mal de SoFoot et Society. Je réécris et tout. Je vais refaire des entretiens et tout ça. C'est cool. Je suis content.
Et à quel moment on a le temps de composer des chansons? Alors ça, je dois dire que c'est un truc... On se connaît quand même depuis quelques temps. Donc, je sais que tu fais plein de trucs. J'ai jamais compris à quel moment dans la semaine tu pouvais faire tenir des répètes. Enfin, voilà, ou même des compositions.
C'est plus facile de composer que de répéter.
Ouais.
Parce que je peux faire tout seul chez moi.
Ouais.
Et si, le soir, tard, moi je dors pas beaucoup, donc...
Insomniaque.
Le soir un peu tard, hop.
Est-ce qu'il y a des envies de nouveaux mags? Des projets éventuellement?
Non, j'ai pas d'envie de nouveaux mags là comme ça, j'ai l'impression qu'on fait déjà plein de trucs.
Oui, il y en a déjà beaucoup, bien sûr.
Il y en a déjà plein. Non, il y a des envies de développer des films, de développer des séries, il y a des envies de trouver des artistes qu'on a envie de produire avec Vietnam et qui nous plaisent. Là, il y a 2-3 trucs, on va signer 2-3 trucs là dans les prochains mois. Et puis voilà.
Et ça en est où, ce projet de série sur la...
Sur Xavier Dupont-Digresse?
Ouais, parce que ça fait... c'était que dans 2020, il y avait un article dans Le Monde. Ouais. Ça remonte déjà.
Ouais, ça remonte.
Et ça avait l'air de se matérialiser d'ici un an ou deux. Bon, j'imagine que le Covid est probablement passé par là.
Non, même pas. L'été de Society.
C'est génial.
C'était dingue.
Et ça, ouais. Et surtout, c'est très curieux de savoir comment vous vivez ça. Parce que tu sais que ça allait marcher, Xavier Dupont de Ligonnès. Mais voilà, c'est ça. Le phénomène vous a complètement dépassé.
Ouais. C'était génial parce que moi, j'étais en vacances et de 6h à 22h, j'étais pendu au téléphone avec des... donc 6h du matin à 22h le soir, j'étais pendu au téléphone avec des kiosquiers qui m'insultaient parce qu'il n'y avait plus de numéro. Moi, j'essayais de racheter du papier, j'en trouvais plus. C'était une galère.
C'est combien de numéros total qui sont écoulés?
450 000.
Plus le bouquin.
Ouais, mais on aurait pu en vendre 5 millions, en vrai. C'était fou.
C'était fou. Dingue.
On en mettait dans l'heure, ça partait, en fait. On remplissait le kiosque, on arrivait, on livrait 250 exemplaires, tu revenais une heure après, il n'y avait plus rien.
Non, mais...
C'était fou.
Et financièrement, pour le groupe, j'ai un peu le sentiment. Est-ce que c'est un peu comme XL qui signe Adèle et qui se trouve avec un truc qui...
Non, malheureusement, non, parce que déjà, l'enquête coûte cher à faire et rapporte quand même un peu, mais la presse n'est pas aussi game changer en termes de rémunération que d'autres activités. Donc, en fait, au final, et puis après, on n'a pas voulu être rentier de nos droits. C'est-à-dire que, par exemple, on aurait pu dire, il y a tout le monde qui nous a approché pour acheter les droits de l'article pour faire une série derrière. Et nous, on a refusé tout. On a juste dit, nous, on veut le faire à notre sauce, en fait. Et donc, du coup, on a perdu beaucoup. Enfin, on a refusé beaucoup d'argent à ce moment-là, parce qu'on voulait maîtriser les choses et faire comme nous, on veut le faire. Et on a d'abord signé avec un network, et pendant 2 ans, on a développé avec eux. Et finalement, on n'arrivait pas à faire un truc qui nous plaisait. Enfin, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce qu'on voulait faire, en fait. Nous, on a eu un truc en tête. Eux, ils ont un truc en tête, ça marche pas. On n'est pas d'accord. Bon, bah, on arrête. Et donc, du coup, on développe maintenant nous et on est en discussion avec différentes chaînes pour voir comment ça peut se matérialiser. Mais si ça se fait, ça se fera comme nous, on veut que ça se fasse, en fait. Ça se fera pas de manière putassière ou n'importe comment, quoi.
Et quand t'as vécu cet été-là, est-ce qu'il y a ce frisson de l'été, c'était quoi, 2020
2020.
Ouais. Est-ce qu'il y a un peu cette envie de pouvoir faire ce qui est nécessaire pour revivre ce genre de moment-là? Ou est-ce que tu penses que c'était tellement beau cet été-là que ça sert à rien d'à nouveau courir après, parce que ça a été un alignement de planètes qui a été tellement hallucinant, un emballement tellement imprévisible qu'on ne le reproduira jamais? Tu penses pas?
Je pense
qu'il n'y a pas de recette pour avoir ce que tu as eu là?
Je crois que non seulement il n'y a pas de recette, et je crois qu'en plus, chaque moment dans ta vie, ne peut pas être reproduit, en fait. Tu ne reproduis pas des moments. Enfin, tu vois, moi, je ne crois pas beaucoup à ce rapport-là au temps. Je crois que, pour le coup, j'ai un rapport au temps qui est vraiment que le temps s'écoule et que toi, tu as tes petits marqueurs au fur et à mesure, mais que tu ne peux pas faire inverser ou en tout cas recourber le cours du temps. Tu ne peux pas rendre le temps cyclique. Je ne crois pas beaucoup à ça. Voilà.
Je trouve que c'est une magnifique conclusion, ouais. Un joli mot de fin. Enfin, on en a presque terminé, Franck, mais on a une tradition dans ce podcast. Il s'appelle Game Changer, hein. Je pense que tu l'as remarqué à ce stade-ci. Alors, pour toi, c'est quoi le prochain Game Changer? Je précise, ça peut être absolument n'importe quoi. Ça peut être absolument n'importe qui.
Ok. Sache que ça risque d'être moi, parce que je vais me présenter à l'élection présidentielle en 2037.
Ça, c'est assez game-changing.
Et je peux te dire que le jeu va un petit peu changer.
Et donc, il faut commencer à travailler dès 2024.
C'est pas prévu, mais puisqu'il fallait trouver une réponse à cette question, il y a une petite annonce.
C'est pas une petite annonce.
2037, je peux dire que le pays prend une autre tournure.
Campagne à la Kanye, un peu.
Campagne justice pour tous.
C'est, je crois, une blague, mais...
Pas sûr. Hein.
La politique, c'est un truc qui te...
Être président de la République, franchement, je ferais un super président de la République. Quoi.
J'en doute pas, mais éventuellement te présenter alors.
Élection présidentielle 2037, ouais, j'ai annoncé il y a 17 secondes. Donc
et qui sera ton ministre de la Culture?
Voilà,
on vient juste de savoir ton ministre de la Culture.
Ça sera pas Rachida Dati, ça je peux te le dire. ça c'est sûr.
Ah, merci Franck pour cette révélation.
On appelle ça un scoop. Hein, ouais.
Un tremblement de terre.
Je peux te dire que tu t'y attendais pas, celle-là.
Ah ben là, ça m'a coupé la chic, comme on dit dans notre plat pays.
Ben voilà. En 2037, putain, on sera dans un pays heureux.
On se revoit. On se revoit en 2036 pour la campagne.
Évidemment.
Voilà, ben écoute, ben merci. Écoute, c'était bien, mais c'est fini. Alors, que dire sinon, merci Franck pour ces révélations quand même. Merci Nico aussi.
Plaisir.
Bon, j'espère que vous avez tous passé un agréable moment. Donc voilà, écoute, merci aussi aux gens qui nous écoutent. Mettez-nous plein d'étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Puis si le cœur vous en dit, pensez à nous soutenir sur la plateforme de financement Tipeee. Ça fait toujours plaisir. Vous tapez simplement Goutte Mes Disques et vous nous trouverez tout de suite. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc merci Nico, merci Franck. Et puis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.